1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat. Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle heure de vie lausannoise, de la société à la culture, en passant par la migration, c'est le grand direct de Radio Django. Trois sujets au menu ce soir. On va commencer cette soirée dans Vivre à Lausanne, avec une balade et sur les cheminements piétonniers en ville de Lausanne, Fabio.
Oui, en effet, je suis parti à la rencontre, on a marché un petit moment d'ailleurs ensemble, de Pierre Courageux, qui est le délégué piéton de la ville de Lausanne et qui va nous expliquer un petit peu son travail qui nous concerne tous, vu que nous sommes tous piétons.
Et oui, effectivement, une petite balade pour commencer cette émission. Tout à l'heure, la Rose des Vents, dans 20 minutes, il sera question d'un trait d'union entre les Lausannois et les demandeurs d'asile avec une association, Daniel, trait d'asile justement.
Très joli lapsus. Ouais, oui, effectivement, nous irons donc à la rencontre des membres de cette association qui entend par ses activités créer un dialogue autour de la question de l'asile entre les Lausannois et des personnes concernées par cette problématique hier et aujourd'hui.
Voilà, donc on fait le trait d'union ce soir. Au programme de la culture à 7h20, ce sera avec toi Ségolène, bonsoir.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
Et deux découvertes de livres avec notre librairie acolyte Basta.
Oui, tout à fait Fabien, en fait nous on fait notre rentrée littéraire maintenant sur Radio Django et on aura le plaisir de recevoir Mélissa donc de la librairie Basta qui va nous présenter deux nouveautés qui viennent de sortir, tout juste, c'est tout chaud, c'est sorti au mois d'août il me semble. Et dans un premier roman, l'auteur s'est demandé s'il pouvait faire de la littérature sur des événements qu'il avait vécu, les événements du Bataclan. Et dans l'autre roman, c'est plutôt un questionnement autour d'Internet et notre rapport à la toile.
Ah ben oui, c'est vraiment des sujets d'actualité, ce sera à découvrir tout à l'heure à 7h20 environ dans Cultiver Lausanne. Pierre Courageux et les cheminements piétonniers à Lausanne, l'association Trait d'asile et des suggestions de lecture proposées par Basta, c'est le programme de ce grand direct à écouter sur radio.django.fm et en DAB grâce à La Fabrique. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Aujourd'hui, Vivre à Lausanne donne la parole à Pierre Courageux, le délégué aux piétons de la ville de Lausanne, Fabio.
Oui, ce poste a été créé en 1997 déjà, à la suite de l'adoption du plan directeur communal de l'année précédente pour, je cite, « veiller au respect de la prise en compte du piéton dans la planification, l'étude et la réalisation de projets d'aménagement de l'espace public ».
Le délégué aux piétons accorde donc une attention particulière aux besoins spécifiques à tout un chacun qui se sert de ses guiboles pour arpenter les cheminements de la ville.
Oui, c'est ça. Et c'est aussi important de souligner, comme le fait d'ailleurs Pierre Courageux dans notre entretien, que ce poste évolue en tout temps en étroite collaboration avec d'autres services de la ville, notamment celui du délégué au vélo, dont on parlera la semaine prochaine.
Tu as donc rencontré Pierre Courageux, le délégué au piéton, que nous allons entendre en interview à ton micro.
Bonjour Pierre Courageux.
Bonjour.
Tu occupes le poste de délégué au piéton de la ville de Lausanne. Par ailleurs, on te connaît aussi bien à Lausanne et ailleurs pour ta passion pour les promenades et la flânerie qui a donné lieu à toute une série de balades accompagnées que tu organises depuis une vingtaine d'années. Pour découvrir la ville et ses alentours. Et d'autre part, tu as édité aussi plusieurs livres sur les balades à Lausanne et en Suisse romande. Ce n'est pas étonnant du tout que tu sois devenu délégué aux piétons.
Dans les deux cas, il y a des déplacements piétons, mais c'est vrai que c'est quand même une grande différence. La flânerie prône plutôt, on va dire, des cheminements en méandre, pas forcément liés au quotidien. Alors que dans ce poste délégué aux piétons, évidemment, il y a une volonté de faire en sorte que les piétons au quotidien dans Lausanne, dans leurs déplacements fonctionnels, mais aussi dans leurs déplacements de loisirs, soient en tout confort, en toute sécurité, que les aménagements soient à la hauteur des déplacements et qu'on ait envie en fait, de se déplacer plus à pied encore à Lausanne.
Une de tes missions, c'est justement de faciliter ce type de déplacement en ville.
Oui, alors je ne suis pas le seul, j'ai aussi tous des collègues au service des routes et mobilités qui travaillent sur ce domaine. Hein. Donc il y a parfois des réaménagements total de rues qui sont opérés. Et à ce moment-là, évidemment, tous les aspects sont pris en compte, pas seulement les piétons, mais aussi les vélos, aussi la circulation automobile, les bus. Voilà, il faut essayer de partager la chaussée dans les différents flux, puis de faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer, on va dire, en toute quiétude. Alors pour les piétons, eh bien évidemment, on essaye d'avoir des trottoirs qui sont d'une certaine largeur pour pouvoir se déplacer, même si de côte à côte ou se croiser. On prend en compte les traversées au moyen de passage piéton, qui doivent avoir une bonne visibilité, avoir des abaissements pour que tout le monde puisse avoir accès à ces traversées. Et voilà, quelques actions en lien avec les rues.
Est-ce qu'il y a des conditions cadres qui justement canalisent un peu ton travail de délégué, des conditions qui peuvent être peut-être fédérales ?
Oui, il y a des normes qui sont au niveau fédéral. Il y a notamment les normes VSS qui définissent toute une série de choses par rapport aux aménagements. Puis après, c'est vrai qu'il y a certaines normes qui sont qu'on appelle contraignantes, hein, et puis d'autres qui sont, on ne va pas dire facultatives, mais qu'on peut faire, des actions qu'on peut faire pour encore renforcer le confort et le plaisir et la sécurité de la marche en ville.
Donc on est en train de marcher depuis le quartier du Flon jusqu'à Montbenon, c'est plutôt plaisant là, non ?
Oui, bien sûr, là on est typiquement dans un lieu très proche du centre-ville où tout d'un coup on est au calme avec une belle vue. Lausanne à plusieurs endroits comme ça, plein d'endroits comme ça. Alors ici c'est un endroit assez grand, mais il y a aussi d'autres endroits plus petits, un peu moins connus, qui sont aussi des bons moyens de se reposer, de faire une pause, ou alors de cheminer d'un lieu à un autre dans la ville.
Est-ce que Lausanne est une ville agréable, voire invitante pour les piétons, d'après toi ?
Il faudrait déjà le demander aux Lausannoises et aux Lausannois. Mais moi, je trouve que le maillage des cheminements est relativement bon. C'est un indicateur, en fait. Hein. Plus on a de cheminements publics pour se déplacer en ville, plus potentiellement on a de possibilités de le faire, quoi, de se déplacer en ville. A contrario, si on a un mauvais maillage, notamment dû à, je sais pas, beaucoup des moyens de transport qui font des coupures, comme une ligne de train ou alors des zones industrielles importantes, etc. On aura moins de fluidité possible. Donc le maillage, il est relativement bon. Je dirais que une des difficultés à Lausanne, c'est qu'au-delà de la pente, qui n'est pas présente partout, mais qui est présente une partie dans nos déplacements, c'est que comme il y a aussi des creux créés par les rivières, le Flon, la Louve, etc., dans le centre, mais aussi quelquefois dans les quartiers, on a des fois pas forcément une vision justement de ce maillage, des cheminements qui est très facile à avoir dans sa tête. Par exemple, pour relier le quartier de Bellevaux au quartier de la Blecherette, des fois on peut oublier, si on n'est pas dans ces quartiers par exemple, mais même si on y habite, il y a des cheminements qui passent sur la vallée de la Louve et qui permettent de connecter très rapidement ces deux quartiers.
À l'époque, il y avait même un projet pour d'un pont entre ces deux quartiers.
Oui, alors il y a d'ailleurs un projet de passerelle qui est actuellement en cours de réalisation, parce que ce projet se décline sur deux passerelles et une a été réalisée, celle de Maillefert, et puis elle devrait être complétée ces prochaines années par une deuxième passerelle qui permettra de relier le quartier de Bois-Gentil au quartier d'Entrebois, de Bellevaux. Donc effectivement, ça c'est un dispositif qui renforce le maillage justement des cheminements. Plus on a un maillage important, plus on a de personnes potentiellement qui peuvent se déplacer. Après, il faut que les cheminements soient, comme je l'ai dit avant, bien aménagés pour que les gens puissent se déplacer en toute sécurité, pour qu'il y ait une accessibilité, si possible, universelle, que tout le monde puisse l'emprunter, qu'il y ait des rampes pour les personnes en chaise roulante, etc. Puis, ben, peut-être faire la promotion d'itinéraires pour... ça, c'est quelque chose qui est, c'est des réflexions qui sont en cours pour mieux faire connaître le réseau de chemins existants. Parce que des fois, ce n'est pas forcément intuitif. Comme je disais avant, on n'est pas dans une ville style La Chaux-de-Fonds avec un quadrillage régulier. On a justement un quadrillage qui est un petit peu plus complexe, mais qui fait aussi le charme du déplacement en ville.
Est-ce qu'il y a des plans ou des cartes pour marquer les trajets à l'attention des piétons, Fabio ?
Il y a bien eu une campagne de communication du nom de Lassé qui a été réalisée il y a quelques années, mais on écoute Pierre Corajou.
À l'époque, si je ne fais erreur, ce petit dépliant avait été abondamment diffusé. Je crois qu'il avait fait l'office d'un tout ménage. Effectivement, c'est ce genre d'action qui permet de mieux faire connaître. Je pense que de cibler aussi sur certains parcours, que des quartiers au centre-ville, en essayant de mettre en avant des cheminements agréables sur une distance entre 500 mètres et 2 km, on sait que c'est là où statistiquement la part des piétons, des déplacements piétons chute à partir de 500 mètres. Hein. Donc jusqu'à 500 mètres, c'est un mode de déplacement qui est beaucoup utilisé. Mais au-delà de 500 mètres, évidemment, on a un report qui se fait avec d'autres moyens de transport. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur cette distance-là, entre 500 mètres et 2 km, parce que c'est accessible un peu à tout le monde, on peut l'intégrer dans son quotidien. Et finalement, quasiment tous les quartiers de Lausanne, par exemple, si on prend l'exemple d'un déplacement depuis chez soi jusqu'au centre-ville à pied, quasiment tout le monde habite dans cette... quasiment. Hein. Il y a des personnes qui habitent plus loin, mais une bonne partie des quartiers ne sont pas plus loin que 2 km du centre-ville. Et il existe le plus souvent des cheminements assez directs et assez agréables, avec peu de circulation, qui permettent de rejoindre le quartier. Donc typiquement, ça pourrait être, dans un avenir proche, beaucoup plus mis en valeur.
Bon, le délégué aux piétons ne peut pas être en connaissance de toutes les demandes de la population et des interventions à effectuer en ville pour les besoins des piétons. Quels sont les liens de transmission? Comment ces demandes remontent jusqu'à lui?
Eh bien, petit mode d'emploi avec notre invité.
Alors, chaque citoyen a la possibilité de prendre contact avec nous. Hein, donc, il n'a pas besoin de savoir exactement l'adresse mail ou le numéro de téléphone du délégué piéton. Mais il peut tout simplement s'adresser au service de la ville en faisant un coup de téléphone, au service des routes et mobilité, mais ou au service général. Après, la demande est dispatchée. Ou écrire un mail, dire voilà, j'ai un problème ou voilà, j'ai une suggestion. Donc évidemment, à chaque demande, on fait la réponse. Après, il y a des démarches qui sont faites dans les quartiers. Alors, dans le cadre de certaines de ces démarches, avec aussi d'autres collègues de la ville, chaque démarche est un peu différente. Il y a des démarches participatives qui sont menées avec des demandes, quoi, des contacts directs avec la population. On sait que, évidemment, les usages quotidiens sont source de bonne input que nous, on ne peut pas forcément ressentir en n'étant pas du quartier. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ces retours. Après, évidemment, le rôle, c'est de pouvoir trouver un consensus autour de différentes envies, parce qu'évidemment, souvent, il y a des intérêts qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir trouver un consensus, trouver une solution, une variante qui va pour le mieux en fonction du contexte.
Pierre Corajou parle de consensus. À ce propos, on oppose souvent la petite reine aux piétons dans la mobilité douce en ville, non ?
Je ne sais pas si c'est un vrai antagonisme, mais il est vrai que parfois la convivialité entre ces deux moyens de transport est à travailler. J'ai posé la question de savoir si ce travail, justement, se faisait en directe collaboration avec son collègue, le délégué vélo de la ville de Lausanne.
Oui, c'est mon collègue direct. On travaille dans le même bureau. Ces deux postes qui... Le poste délégué vélo a été créé à peu près au même temps que le poste délégué piéton, donc pour la mobilité douce ou mobilité active dans la ville. Et effectivement, on essaye de collaborer, de réfléchir à différents projets. Alors, c'est vrai qu'on a des demandes, des fois, d'usagers, d'habitants qui nous disent, voilà, il y a des problèmes entre les vélos, les piétons, pas de respect, en fait, notamment des vitesses hein, dans des espaces partagés. Il faut savoir qu'ici, à Lausanne, on a plusieurs cas où les espaces sont partagés entre vélos et piétons, mais ces cas sont en fait assez rares. Hein, donc, je dirais que...
Chacun a sa piste, en fait.
Voilà, tout à fait. Alors, en général, le vélo est sur la route, et puis le piéton est sur le trottoir. Mais dans certains cas, on a des partages, par exemple, dans des parcs. Ici, dans l'endroit où on se trouve, à l'allée Ernest-Ansermet, les vélos ont le droit de passer, parce que ça leur permet d'éviter en fait un cheminement avec une route avec beaucoup de véhicules. Donc ils ont le droit de passer, c'est à Vidy aussi par exemple, ils ont le droit de passer, mais dans beaucoup de parcs ils n'ont pas le droit de passer, hein, comme la place de Milan ou d'autres parcs. Puis sinon il y a d'autres cas comme des trottoirs partagés. On a quelques cas à Lausanne, par exemple à l'avenue du Théâtre qui monte à Saint-François, où il y a finalement peu de piétons, mais où d'un côté le trottoir est partagé dans le sens de la montée des vélos. Et puis on a aussi le troisième cas de figure dans les zones piétonnes, genre type Marteret, le haut de Marteret, où on a cet espace partagé. Donc, des sources de potentiel de conflit, évidemment, parce que les vitesses ne sont pas les mêmes. Dans ces espaces partagés, les vélos seraient tenus d'adapter leur vitesse, mais des fois, ben, voilà, les panneaux, même s'ils existent, ils ne sont pas forcément vus, ils sont verticaux. Alors, on a actuellement, on est en réflexion avec mon collègue de délégué vélo. On est rentré en poste en même temps il y a environ une année, et puis on a pas mal de boulot. Mais donc du coup, c'est une réflexion qui a déjà débuté, mais qui est en cours, hein, qui n'est pas encore finalisée. Mais on aimerait travailler justement sur communiquer sur justement cette mixité dans ces lieux-là, avec une signalétique encore à définir, mais qui soit commune dans tous ces lieux, et puis on se dise, ah bah tiens, quand on passe là, ah ouais, tiens, là on est dans un endroit partagé. Et puis travailler sur la vitesse, le message autour de la vitesse adaptée, qu'on adapte sa vitesse en fait et qu'on soit respectueux de l'autre.
Quelles sont les actions prévues, Fabio, par le délégué aux piétons ?
Il y en a beaucoup. Si on considère notamment les différents publics de piétons en ville, au-delà du piéton lambda, comme nous sommes, toi et moi, et il y en a déjà beaucoup, on peut penser encore aux personnes à mobilité réduite, aux enfants, aux malvoyants. Le tout est de rendre possible et de rendre accessibles les cheminements citadins à tout public. Mais on écoute encore Pierre Corajou qui nous présente quelques actions.
La modification des panneaux d'impasse routiers. Ces panneaux assez reconnaissables qui montrent que c'est une impasse pour les véhicules motorisés. Très souvent, ces impasses n'en sont pas une pour les piétons ni pour les vélos. Et du coup, la loi a changé et maintenant on a la possibilité de le mentionner sur le panneau, traçant encore un trait blanc et puis en mettant, s'il est perméable aux piétons, un petit logo de piéton et puis s'il est perméable au vélo, un vélo. Donc on a répertorié environ 170 impasses sur le territoire lausannois et puis bonne nouvelle pour nous, 60% étaient perméables aux piétons et près de 30%, un tout petit peu moins, perméables aussi au vélo. Donc on a pu faire changer ces panneaux déjà à la fin 2016 et puis on a continué ce changement au début de l'année 2017. Et donc ouais, ça c'est une action modeste mais permet de... Donc c'est quand même une centaine d'impasses, c'est modeste, mais c'est quand même une centaine d'impasses perméables aux piétons, et ça permet justement de mettre en valeur des nouveaux itinéraires pour des gens qui ne connaîtraient pas. Tout le coup, wow, tiens, là, je peux passer à pied. Ah ben, je vais essayer. Et puis, tout ça, c'est bon à prendre pour favoriser la mobilité douce. On va essayer de densifier très prochainement le réseau de bons publics dans la ville de Lausanne. Aujourd'hui, quand je dis on, c'est le service pour lequel je travaille, hein, donc Route et Mobilité. On s'occupe du domaine public. Hein, donc c'est mon rôle avec mes collègues d'essayer de faire que le réseau de bons soit le meilleur possible pour que des personnes puissent se déplacer, notamment les personnes à mobilité réduite. Je pense aux seniors qui, par exemple, font des commissions et sur le trajet du retour, ont besoin de faire une pause. Et du coup, ces bons sont importants. Ça permet aussi de faire en sorte que ces personnes âgées aient une autonomie. Et donc là, on va poser prochainement une vingtaine de bancs. Alors ça paraît pas énorme, mais c'est quand même déjà bien. Hein. Donc, on en a déjà posé une vingtaine cette année, mais on va refaire une pause d'une vingtaine de bancs à travers Lausanne. Et puis ce type de campagne va être réitéré ces prochaines années. Il y a aussi très, très dernièrement une action qui a été menée à la place de la gare, hein, en lien avec le déplacement des personnes malvoyantes et non-voyantes. Vous avez peut-être déjà vu au sol ces lignes blanches qui permettent de se guider, des lignes de guidage. Et là, on a renforcé le réseau existant à la place de la gare, qui était en gros entre le métro et la gare, et on l'a renforcé en offrant la possibilité d'atteindre les arrêts de bus. Donc voilà, ça fait partie des actions pour l'accessibilité pour tous à l'espace public.
On arrive au terme de cet entretien avec le délégué aux piétons de la ville de Lausanne, et on écoute, Fabio, ta dernière question à Pierre Corajou.
Depuis le temps que tu te balades à Lausanne, tu as toujours un plaisir, tu aimes toujours cette ville à pied?
Oui, tout espace mérite qu'on le découvre à pied, parce que c'est comme ça qu'on voit des nuances qui nous échappent un peu avec la vitesse de déplacement. Alors après, cette façon de faire peut très bien aussi être couplée avec une certaine fonctionnalité, un certain côté direct des déplacements. On peut aussi quand même prendre le temps un petit peu de musarder et puis d'avoir du plaisir à être dans un espace. Et je pense que la notion de plaisir est importante quand on fait aussi la promotion des piétons et des déplacements en ville, parce que plus on a de plaisir à être dans une ville, plus les espaces sont intéressants, puis qu'on se sent en sécurité dans ses déplacements, plus on va utiliser ce mode de déplacement pour se déplacer. Donc tout ça a du lien. Et puis de proposer des assises aussi, des bancs publics, comme je mentionnais avant, fait partie aussi de ce dispositif d'accueil, on va dire.
La marche, c'est la liberté, en quelque sorte.
Voilà, c'est une liberté, une grande liberté, sur des distances pas très grandes. Mais finalement, dans une ville aussi, il y a beaucoup de variétés, de paysages, d'ambiances, de gens qu'on rencontre. Et puis du coup, on est en phase avec l'extérieur, beaucoup plus que si on se déplace plus rapidement.
Merci beaucoup à Pierre Corajou pour nous avoir présenté son activité de délégué aux piétons de la ville de Lausanne. Pour celles et ceux qui s'intéressent à découvrir davantage d'informations sur ce sujet, nous vous renvoyons à l'émission Vacarme de la RTS du 20 septembre dernier. D'autres informations sur ce thème sur le site de la ville de Lausanne, bien entendu lausanne.ch. Et puis la semaine prochaine, ce sera la découverte de la petite reine à Lausanne, et nous irons à la rencontre du délégué au vélo. Ce sera un sujet qui sera proposé également par toi, Fabio. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Un peu d'hypnose, hein, d'hypnotisme ce soir avec Marriage Man dans la radio de Radio Django et La Fabrique.
Radio Django, la rose des vents.
Ce soir dans La Rose des Vents, nous parlons de rencontres, nous partons même à la rencontre de membres de Trait d'Asile, définitivement, je ne vais pas y arriver ce soir. Trait d'Asile, c'est une jeune association qui est basée à Lausanne, qui entend par ses activités créer un dialogue autour de la question de l'asile entre les Lausannois et des personnes concernées par cette problématique hier et aujourd'hui. C'est un projet qui vise à favoriser les rencontres, si j'ai bien compris, Daniel.
En effet, Fabien, la rencontre est au cœur du projet dessiné par Trait d'Asile, projet citoyen qui entend sensibiliser la population locale de Lausanne à cette problématique et surtout favoriser le dialogue et œuvrer pour une meilleure compréhension entre des populations souvent étrangères les unes aux autres et parfois frileuses. Deux membres de l'association Trait d'Asile ont accepté de livrer leurs impressions à ce sujet.
C'est une méconnaissance. Ouais, les Suisses sont... Moi, j'ai pas beaucoup voyagé, mais je sens que les Suisses sont... Leur culture se limite peut-être au côté occident, quoi. Voilà, c'est ce que moi, je vois. Parce que c'est surtout les immigrés côté Afrique qui causent problème, à mon avis.
Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment bienvenu en Suisse quand on est étranger ?
C'est une grande question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font... bien, il y a plein de collectifs, il y a plein de gens qui ont œuvré pour le bien des étrangers. Après, c'est clair qu'il y a encore du boulot avant que
c'est d'ailleurs
qu'ils soient vraiment les bienvenus.
C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'est née l'exposition Bienvenue en Suisse, Jeu de loi, présentée à la Nuit des Musées en collaboration avec le Musée de l'Immigration.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Karen Deveau. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes étudiante en psychologie à l'Université de Lausanne, cursus en master et membre fondatrice de cette association Trait d'Asile. À nos côtés également, Kofi Aïga. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Bienvenue sur Radio Django également. Vous êtes l'un des membres fondateurs également de cette association Trait d'Asile. Vous êtes arrivé en Suisse en 2002 et vous êtes d'origine togolaise. Aujourd'hui, vous êtes naturalisé, mais vous avez suivi une formation d'infirmier pour ensuite faire un master en soins infirmiers. Vous travaillez actuellement au centre hospitalier universitaire vaudois, soit le CHUV, pour ceux qui le connaissent. Karen, peut-être avant de découvrir Bienvenue en Suisse, rappelons que l'histoire de Trait d'Asile remonte à un séjour dans la jungle de Calais, effectué dans le cadre de votre projet de mémoire de master. Vous partez avec une autre étudiante de l'EPFL en architecture. En quoi est-ce que ce séjour vous a motivé à fonder Trait d'Asile ?
Alors en fait, ce séjour nous a surtout donné l'idée de créer cette exposition sur les parcours et le quotidien des requérants d'asile en Suisse. Parce que bien qu'en Suisse, il n'y ait pas de camp comme à Grande-Synthe ou Calais, il y a, on pourrait dire, des murs un peu comme ça, invisibles, qui séparent les habitants d'un territoire, des autochtones, comme on pourrait les appeler, des requérants d'asile. Et on s'est dit que c'était assez dommage qu'il n'y ait pas de rencontre. Donc l'idée de créer l'association est venue à partir de ce projet d'exposition ensuite.
Karen, qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'identité de Trait d'Asile ?
Premièrement, je pense que c'est la volonté profonde de faire des projets communautaires, donc, c'est-à-dire travailler pour et par et avec des requérants d'asile. L'identité, je pense qu'elle est aussi multiculturelle et pluridisciplinaire, donc on est de différents champs de métiers, tout le monde amène ses compétences et voilà, l'identité principale, c'est aussi de faire une information qui soit accessible au plus grand nombre concernant l'asile, avec tous ces acteurs, tous ensemble.
Et en travaillant essentiellement sur le terrain, bien sûr.
Absolument.
Kofi, Trait d'Asile se caractérise par la diversité de ses membres, mais qui sont-ils au juste ? De quel horizon viennent-ils ?
Merci pour la question. Au fait, le groupe est composé des personnes d'origine diverse. Certains ont eu alors un parcours de requérant d'asile ou pas, et des personnes issues de divers horizons travaillant dans la santé. Et nous avons même alors certaines amies qui sont juristes et aussi alors les artistes, les, art, architectes aussi qui font partie alors de ce projet.
Mais donc, en fait, c'est un melting pot de Suisses et de personnes d'origines diverses.
Totalement.
Qui constituent Trait d'Asile. Oui. Et dans quelle mesure est-ce que cette mixité, en fait, sociale et professionnelle est nécessaire pour mieux appréhender la question de l'asile, Kofi?
Alors, c'est très important parce que alors, cette dimension nous permet vraiment de montrer aussi à toute personne qui vit aussi en Suisse, et plus particulièrement dans le canton de Vaud, de comprendre un peu qu'est-ce que ces personnes vivent autour de nous.
Donc c'est important en fait de pouvoir partager en fait avec des personnes donc qui vivent la migration au quotidien ou qui l'ont vécu, avec des professionnels qui eux justement travaillent dans différentes structures, que ce soit au niveau de la santé ou dans le cadre en fait de l'urbanisme et de l'architecture, pour pouvoir en fait créer cette rencontre et faire prendre conscience surtout au public des problématiques qui sont vécues au quotidien par les réfugiés.
Très bien.
Qu'est-ce qui distingue les activités de Trait d'Asile de certains collectifs comme le collectif R ou celui Jean Dutoit, hein, dont on entend parler un petit peu, Karen?
Principalement, donc, on n'offre pas d'aide matérielle, on n'offre pas d'aide au logement non plus, on n'est pas spécialiste en conseil juridique. Ce qu'on offre plutôt, c'est un espace, en fait, c'est un espace de rencontre entre des personnes de différentes communautés qui sont là déjà depuis plus longtemps, qui peuvent aussi aider d'une manière ou d'une autre les nouveaux arrivants, et des personnes suisses qui ont une très bonne connaissance du système, par exemple.
Administratif, entre autres.
Par exemple, oui, tout à fait. Mais surtout, c'est de pouvoir offrir donc, un espace à des requérants d'asile, de venir imaginer et réaliser des projets qui sont en fait le reflet de leurs propres envies à eux. Donc nous, on n'impose absolument pas d'idées. L'idée, c'est vraiment que le matériel, les envies arrivent des requérants d'asile, et nous, on essaye de faire un maximum pour offrir une structure qui soit
accueillante.
Accueillante, ouais, voilà.
Et dans ce cadre, ouais. Votre première activité phare, Bienvenue en Suisse, Jeu de loi, s'est déroulée durant la nuit des musées à Lausanne, fin septembre. Une exposition pour se mettre dans la peau d'un demandeur d'asile. Écoutons deux membres de Trait d'Asile qui ont participé à l'élaboration de cette exposition.
Est-ce que vous avez vraiment réussi à vous mettre dans la peau d'un migrant?
Alors, pendant un petit moment, oui, parce que des fois, on sous-estime, en fait, ce que les gens peuvent avoir vécu et leurs réactions. On les prend comme si, comme si c'était des gens qui venaient visiter cette expo. Puis on s'attend à ce qu'ils soient fonctionnels ou que tout joue, alors qu'on ne prend pas forcément en compte ce qu'ils ont vécu avant, ce qu'ils ont vécu pendant la procédure et puis ce qui les attend après.
Mais ça explique réellement tout ce que les gens vivent. Tout ce qu'il y a comme étape dans cette procédure d'asile. Et pour toute personne qui désire vraiment cohabiter, ou bien qui sent un peu concerné par ce sujet, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde aujourd'hui, l'immigration. Voilà, que tu en connaisses, que tu connaisses d'immigrés ou pas, tu vas les croiser, ton frère va en connaître, forcément tu vas croiser un immigré. Et pour vulgariser, pour rendre la chose un peu plus accessible à tous, il faut que les gens passent par ce genre d'exposition-là pour comprendre réellement ce qui se passe, quoi. Les gens partent de chez eux et qu'ils ont des raisons et c'est valable. L'expo actuelle-là explique la procédure réelle. Voilà, chacun pourra venir se mettre dans la peau et puis comprendre, quoi.
Kofi, dans quel contexte est né ce concept et surtout à quelle fin?
Ok, merci pour la question. Alors, au fait, il y a deux de nos amis, donc Karen et Carla, qui ont fait un voyage
à Calais.
Dans Jean de Calais, voilà. Et après tout, à leur retour, il y a professeur Jean-Claude Métro qui leur a dit de s'approcher de moi. Et les deux sont venus. Et nous en avons discuté. Au même moment, il y a une autre amie, Manon, qui s'est jouée à nous. Donc, nous étions quatre à commencer. Donc, notre but, au fait, c'est d'amener aussi le public, le temps d'une exposition, à se familiariser aussi avec cette loi d'asile.
Mais qu'est-ce que cette loi a de si particulier pour que les gens la méconnaissent autant?
Alors là, je pense que c'est là où se trouve la grande question. Parce que j'ai l'impression que ces personnes qui vivent ces moments d'asile chez nous ont tellement beaucoup de choses et que nous, qui sommes Suisses par la force des choses, on n'arrive pas à comprendre cette loi. Parce que c'est une loi qui est assez lourde. Il y a alors différentes étapes à suivre. La procédure, les demandes, des fois des plans de vol, et il te dit vraiment de partir. Mais la plupart du temps, le public qui est derrière donc, n'arrive pas à sentir cela. Donc, au fait, donc c'est amener le public à percevoir ce que les gens vivent vraiment dans ces procédures d'asile. Et des fois, il y a deux entretiens, mais après tout, la décision tombe et des fois, c'est le plan de vol.
Et dans quelle mesure est-ce que vous avez le sentiment que le fait de faire découvrir cette loi au public suisse, notamment, permettrait justement de créer ce dialogue et de mieux comprendre un peu ce que vivent les réfugiés au quotidien?
Vous avez dit un mot qui est très, très important. Alors vraiment, c'est de comprendre. Le fait de comprendre et de vivre aussi un moment, alors un temps clé de ce parcours permettre alors au public alors de comprendre aussi ce que vivent les gens autour de nous.
Karen, comment est-ce que s'est construite l'exposition Bienvenue en Suisse?
Elle s'est construite pas à pas. On a fait beaucoup de rencontres pour créer ce concept, essayer de visualiser d'une manière plutôt visuelle, essayer d'illustrer un petit peu cette loi. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les gens arrivent à se mettre dans la peau d'un requérant d'asile à partir d'une loi qui est quand même brute à la base? Donc on a fait beaucoup de rencontres où chacun a donné son avis, sa manière et son expérience. Et ensuite, on a déterminé quel matériel pourrait être utilisé, quel média on pourrait utiliser pour favoriser cette compréhension et favoriser cette compréhension didactique en fait, de cette loi et du quotidien d'un requérant d'asile.
Donc toute cette matière vous a permis en fait, de construire la mise en scène de cette exposition?
Oui, ouais, exactement.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations plus précises sur ce parcours expérientiel qui est singulier?
Alors en fait, assez concrètement, dans notre exposition, on a essayé de créer en fait, différentes ambiances. En fait, donc on était sur la place Saint-François, donc il a fallu délimiter la place à l'aide de tentes et puis de grilles de chantier. Et donc le visiteur était invité à entrer en Suisse par une porte qui était représentée par un chalet. Et il entrait dans le centre d'enregistrement. Donc c'était la première partie de l'exposition où il y avait un espèce de jeu d'acteurs comme ça, où on demandait à la personne de donner ses valeurs, de s'enregistrer, etc. Et ensuite, avec sa feuille d'enregistrement, il se baladait, il déambulait dans les différentes salles
les différentes étapes de la procédure.
Exactement.
Et Karen, merci Karen. Daniel, tu t'es rendu sur place, c'était le 23 septembre, pour tester ce parcours. Quelles ont été tes impressions?
Alors, on ressort glacé après la prise des empreintes digitales et la confiscation des papiers d'identité. L'accueil n'a rien de chaleureux. Désorienté, surtout, quand on ne maîtrise pas la langue nationale, et désemparé quand on reçoit une décision en fait, de renvoi, car notre demande s'avère illégitime au regard de la loi. Le pire, c'est de se sentir nu et très seul. J'ai profité de cette incursion dans l'exposition pour tendre mon micro à des visiteurs et sonder à mon tour leurs impressions. Je leur ai demandé en premier lieu ce qu'ils avaient retenu de ce parcours expérientiel.
Beaucoup de frustration, je pense. Je trouvais que rien que dans un petit parcours comme ça, on pouvait tout de suite ressentir de la frustration. Moi, j'ai été débouté sur la fin de l'expo.
La première décision, j'ai eu une non-entrée en matière, donc avec un plan de vol. Alors on sait que c'est des cas qui arrivent, donc c'est hyper choquant. Quoi. On vient d'arriver et puis on sait qu'on soit on va devoir plonger dans l'illégalité, soit on va devoir repartir dans un pays dont on s'est enfui.
Ça permet vraiment de se mettre à la place de ces personnes justement qui demandent la migration, puis de se rendre compte de ce qu'elles vivent, et puis de la complication des démarches pour aboutir à quelque chose. Donc.
L'étape qui m'a le plus choqué. On est très seul dans tout le parcours. On a peu d'infos, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. On est dans des petites cases noires et puis on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et puis même quand on nous offre un espoir, je sais pas, avec un permis N par exemple, ben tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ça qui m'a frappé le plus, je pense.
Le fait que le parcours pour faire une demande d'asile, il est extrêmement long et compliqué et incertain en fait. C'est un peu l'incertitude tout le long.
Le plus choquant, je dirais, c'est de se dire que ça dépend de tellement de facteurs extérieurs que la décision finale, elle est tellement soumise à différentes appréciations qui échappent en fait à la personne que finalement on a l'impression d'être un rouage parmi tout un système énorme autour de nous qui nous oppresse au lieu d'essayer de nous aider.
Kofi, que vous inspire ces réactions à chaud sur le lieu de l'exposition ?
Alors, en toute honnêteté, j'étais ému quand certains visiteurs étaient venus vers moi pour me dire « Mais tout ça là, c'est vrai ?»
C'était palpable.
C'était palpable. Donc, alors, c'était... Ouais, ça m'a beaucoup alors soulagé aussi d'arriver à partager ce moment avec nos citoyens vaudois dans notre canton.
C'est vrai que dans l'espace public, il est plutôt rare en fait de pouvoir se mettre dans la peau d'un réfugié. Karen, pour conclure, en quoi ce processus s'inscrit dans une démarche communautaire et citoyenne ?
C'est un processus qui s'inscrit dans une démarche communautaire parce qu'on va directement demander l'avis et plus on favorise la participation des requérants d'asile dans des questions qui les concernent. Et c'est citoyen parce qu'on est tous des citoyens qui sommes amenés aussi à travailler ensemble pour faire du changement social.
Et pour mieux vivre la diversité.
Voilà.
Est-ce que vous pensez faire d'autres événements de la sorte, Karen ?
Alors, on nous a beaucoup demandé, donc on réfléchit.
Vous y réfléchissez. Bon, ben voilà, vous savez où vous exprimez si jamais vous souhaitez faire un petit peu de promotion pour votre événement. Merci beaucoup, Karen Devaux.
Merci, Fabien.
Merci beaucoup bien. Également à Kofi Aiga.
Merci.
Très bonne soirée à vous. On rappelle que cette exposition didactique Bienvenue en Suisse a permis de créer dans l'espace public, le temps d'un week-end, ma foi, une forme de proximité entre les citoyens et les citoyennes de Lausanne. Daniel, créer un espace de rencontre reste donc essentiel pour amorcer un dialogue entre des populations plutôt étrangères les unes aux autres.
En effet, Fabien, écoutons à ce sujet un monsieur présent à l'exposition Bienvenue en Suisse.
C'est ça le plus important, c'est de pouvoir rencontrer ces personnes, parce que souvent on en parle comme si c'était des personnes extérieures qu'on ne connaît pas. Donc c'est très important de créer des endroits où on peut les rencontrer, on peut faire des... C'est ce qu'elles ont besoin, parce qu'on voit dans cette exposition, on voit qu'elles sont très seules, qu'elles sont livrées à elles-mêmes. Donc pouvoir permettre des rencontres avec la population, c'est essentiel. Pour justement, elles, les sortir un peu de leur quotidien difficile et les Suisses pour se rendre compte de ce qu'elles vivent.
Est-ce que vous pensez que ça peut faire tomber certains préjugés ?
Alors oui, parce que quand on a la personne en face de nous, forcément, on ne peut plus simplement parler du système, des places, de l'économie et tout ça en Suisse. On est obligé de parler de l'humain. Et là, forcément, du coup, c'est... Ça devient vraiment autre chose et on n'a plus les mêmes réflexes.
Des micros enregistrés par Daniel. La force de Trait d'Asile reste effectivement dans sa capacité à donner dans l'espace public un visage aux individus en demande d'asile et sa détermination à créer la rencontre et un dialogue entre des univers parfois souvent clos. Merci beaucoup Daniel pour la préparation de ce sujet, un sujet à écouter sur notre site radio.django.fm ou en tout cas directement django.fm. Musique dans ce grand direct, une musique que vous nous avez apportée Daniel.
J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité à la verticale dans l'immensité. dans ta corps, à ton cœur qui bat, mon frère. Même si j'entends aussi l'orage s'éloigner, nos ivresses apaisées, la vie illimitée. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.
Manitou Mani, c'était pour vous sur Radio Django et Radio La Fabrique.
Radio Django, culture.
Dans la rubrique Cultiver Lausanne, Basta, la librairie indépendante et autogérée lausannoise, nous présente ce soir deux nouveautés littéraires, l'une française et l'autre suisse-romande, Ségolène.
Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir Fabien. Il s'agit en effet de deux romans, l'un intitulé « Le livre que je ne pouvais pas écrire » et l'autre « Une toile large comme le monde ».
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mélissa. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Tu es une habituée presque de parler de livres sur Radio Django. Tu es libraire d'ailleurs à la librairie Basta. On va commencer peut-être par ce premier livre, le livre que je ne voulais pas écrire, un roman d'Erwan Larère que l'on peut trouver aux éditions Quidam.
Mélissa, bonsoir.
Bonsoir.
Avant de nous dire pourquoi ce livre sorti en août dernier est un coup de cœur pour vous, il nous faut préciser deux, trois éléments. Donc en effet, Erwan Larère, écrivain et romancier français, notamment lauréat des prix Claude Chabrol et Louis Barthou de l'Académie française en 2013 pour son roman L'abandon du mal en milieu hostile, fut présent au Bataclan lors des événements du 13 novembre 2015. Si l'auteur avait jusqu'à présent décliné toutes les sollicitations de la presse, se refusant d'être réduit, donc ça je cite, une interview sur BFM TV dans laquelle il dit qu'il se refusait d'être réduit au statut de l'écrivain rescapé du Bataclan et qu'il craignait par-dessus tout la lumière artificielle que le drame n'aurait pas manqué de jeter sur ses livres. Cependant, il se décida à mettre en mots pour finir son ressenti en tant que témoin direct, puisqu'il a été également atteint par une balle ce soir-là, mais également en tant qu'écrivain.
Mais alors, il ne s'agit pas d'un énième témoignage, voire récit sur le déroulement des faits, ni d'un livre moraliste, selon les propos de l'auteur.
En effet, Fabien, poussé par ses amis écrivains à se livrer sur les événements du 13 novembre, Erwan Laher s'est demandé s'il pouvait faire de la littérature à partir d'un tel événement. Chose semble-t-il possible, puisque dans une interview télévisée datant d'août dernier, l'auteur affirme que, je cite encore une fois, « l'écriture permet une mise à distance, c'est-à-dire une recréation, c'est presque une invention, puisque ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans ma chair et dans mes sensations. Et les mots, c'est une réinvention, puisque les mots ne disent pas exactement la réalité. »
Mélissa, comment cette dissociation entre l'écrivain, celui qui invente, d'après les termes de Larère, et l'homme se transpose-t-elle dans ce roman ?
Alors déjà, Erwan Larrère utilise la deuxième personne pour parler de son histoire, donc le « tu ». Il s'adresse en fait à lui-même. Donc ça permet une distance, c'est lui, mais c'est pas lui complètement. C'est assez déroutant au début, mais finalement, ça s'y prête très très bien. Et l'usage de cette deuxième personne permet l'autodérision et l'humour. C'est assez surprenant. On ne s'attend pas à rigoler.
Non, sur un sujet grave comme ça, effectivement.
Mais on rit vraiment avec bienveillance et c'est jamais moqueur. Ensuite, je pense qu'il y a trois strates de lecture au récit. Il y a le récit, il y a des récits autobiographiques où il parle de son enfance, sa jeunesse, son rapport à la musique, son éducation musicale. Il parle de l'événement lui-même, ce qui s'est passé avant le concert, pendant et après, les mois qui ont suivi. Parce qu'il s'est pris une balle dans les fesses, voilà. Et son ressenti psychologique et la rééducation physique aussi. Et des vues du dehors, il a demandé à 15 personnes de son entourage de raconter ce qu'ils ont vécu ce soir-là. Donc il y a ces trois choses qui se mélangent, et finalement, quand il parle de sa vie, ça a toujours un écho avec ce qui s'est passé cette nuit-là, ou par la suite. Et moi, le récit autobiographique est assumé, mais il y a quand même une tentative d'objet littéraire. Ça l'obsède beaucoup, il en parle énormément. Parce qu'il écrit son livre et il parle de comment il l'écrit. Et aussi, c'est aussi un récit global, grâce aux vues du dehors, comme il les appelle, mais aussi en imaginant. Il y a aussi un chapitre où il imagine ce qui se passe dans la tête d'un des terroristes qui rentre dans le Bataclan, mais il imagine aussi l'impact sur les victimes qui sont décédées et leurs familles. Donc c'est pas que, il ne parle pas que de lui, il parle vraiment de ce qui s'est passé dans le Bataclan, à Paris, dans la France, dans le monde.
Mélissa, mais en quelques mots, pourquoi vous recommandez ce livre en particulier, ce roman ?
C'est un coup de cœur, hein, si on a bien compris.
Absolument. Mais je pense qu'il est vraiment honnête. Il parle de sa peur de l'autre, de comment il souffre physiquement, mais pas tellement psychologiquement. Oui, quand même, mais il n'est pas démoli. Il a peur d'avoir des séquelles. C'est intelligent, il propose aussi une réflexion. C'est pas juste un témoignage creux. Et puis, comme je disais, il y a beaucoup d'autodérision. C'est malheureux, mais on rigole. Et moi, j'avais très peur du coup marketing et que ce soit exhibitionniste et qui nous mène dans une position voyeuriste. Mais il arrive à déjouer tous les pièges du pathos et de la victimisation, ce qui est assez extraordinaire. Et je trouve surtout que c'est plein d'humanité. Et comme disait Montaigne, chaque homme porte en lui une part de l'humanité tout entière. Je pense qu'Erwan Larrère doit en avoir deux.
Bon, histoire basée sur des faits réels, est-ce qu'il y a une part romancée aussi ? Est-ce qu'il y a une part inventée, voire projetée ?
Oui. J'imagine quand il imagine l'état d'esprit d'un des attaquants, par exemple. Mais c'est jamais le piège de l'autofiction. Et c'est pour ça que je pense que le tu est intéressant. Le jeu évite le pathos. Et s'il avait décidé de prendre un point de vue extérieur en disant il et en changeant de nom, ça aurait été justement cette autofiction pas intéressante et... peut-être exhibitionniste.
Le fait d'avoir un livre qui est quasiment autobiographique, est-ce qu'il y a une chute ? Est-ce qu'il y a quelque chose à la fin ? On se dit, bon, voilà, j'ai fait le tour. Ou est-ce qu'on reste un petit peu bon, et après ?
Non, je pense que ce qu'il dit, ça se suffit à lui-même. Après, il donne vraiment envie de le rencontrer, mais pour parler de musique ou de plein d'autres choses, mais pas de cette nuit-là. Je pense que ce qu'il dit, il le dit, il n'y a pas besoin de plus.
Voilà donc ce livre dont je vais retrouver le nom. Le livre que je... Merci. Voilà, on me donne le livre. Le livre que je ne voulais pas écrire de Erwan Larrère, hein, qui revient donc sur ces malheureux événements au Bataclan de Paris. Un deuxième livre que vous nous avez apporté, Mélissa. C'est un coup de cœur également. Cette fois-ci, c'est une artiste suisse romande. Il s'agit du livre « Une toile large comme le monde » de la genevoise Aude Seigne. Un roman disponible aux éditions Zoé Ségolène.
Oui, donc pour le coup, Fabien, là, on change complètement de registre, puisque ce roman traite de notre rapport à la toile, donc autrement dit au web, et aux implications de cette dernière dans notre vie privée et professionnelle. Pénélope, June, Birgit, Lupin, quatre protagonistes habitant quatre coins du globe, vont s'unir autour d'un projet commun et vont prouver qu'il est possible de mener une vie en dehors d'Internet.
L'auteur questionne donc l'organisation de nos sociétés contemporaines à travers des thématiques telles que l'interconnectivité, notre rapport au savoir ou encore les conséquences écologiques liées au fonctionnement d'Internet.
Oui, tout à fait. Notons juste qu'il ne s'agit pas d'un plaidoyer contre le web, puisque Hautsain, l'auteur, admet elle-même que ce livre n'aurait pu exister sans Internet. En outre, elle a ouvert un blog via la plateforme en ligne Tumblr, dans lequel on peut trouver tous les articles qui ont permis d'étayer les propos de son roman. Mélissa, qu'est-ce qui vous a plu exactement dans ce roman et pourquoi est-ce à nouveau un coup de cœur ?
Alors moi, je n'avais jamais lu les livres d'Hautsain auparavant. Elle avait reçu le prix Nicolas Bouvier pour Chronique de l'Occident nomade. Là, j'ai eu l'occasion de la lire parce qu'elle venait à la librairie Basta dans le cadre des tournées d'auteurs qui s'intitulent L'Itinéraire. C'est un collectif de cinq librairies en Suisse romande. Moi, ce qui m'a plu, c'est la simplicité et la précision de l'écriture. Elle détaille les fonctionnements d'Internet, mais ça s'adresse à tout le monde. Et pas... Donc peut-être si on s'y connaît bien en informatique, c'est pas très intéressant, parce que je pense qu'on n'apprend rien. Mais moi, j'ai appris plein de choses. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé les personnages. Elle arrive à développer plusieurs angles d'attaque pour la thématique du roman. Et j'ai particulièrement aimé June et ses compagnons qui vivent aux États-Unis. Et c'est pas juste une critique d'Internet et de ses conséquences sur notre quotidien. Elle en fait pas les louanges, ça c'est sûr. Mm-hmm. Mais en même temps, ça reste quand même très nuancé et très réaliste. Donc oui, ils arrivent à éteindre Internet, mais en même temps, ceux qui font ça sont quand même désœuvrés après, parce qu'ils en vivaient aussi.
Donc il y en a un, je crois, qui est fanatique des jeux vidéo, qui passe son temps dans sa chambre, enfermé sur les jeux vidéo.
Ouais. Bah là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc ils doivent aussi se réinventer une vie. Il y en a deux qui partent vivre avec des pêcheurs en Croatie. Mais en même temps, ils ont du mal à se remettre dans je n'ai pas envie de dire la vraie vie, mais une vie plus simple. Mais je pense que c'est plutôt ça qu'Hautsain essaye de nous dire. En partie. Et puis, donc sa réflexion est vraiment, je trouve, élaborée et intéressante. Et puis, même si c'est pas, ça ne s'adresse pas aux fanatiques d'informatique, l'histoire et l'écriture valent largement le détour pour qu'on le lise.
Et est-ce que Hautsain apporte des pistes de réponse par rapport à cette réflexion sur notre rapport à Internet ou...
Non. Parce que, bah, comme elle le dit, elle n'aurait pas pu écrire son livre sur Internet. Donc, je pense que c'est plutôt une piste de réflexion à explorer et de voir est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à quelque chose de plus simple. Mais c'est des réflexions très dans l'air du temps. Elle ne réinvente pas la question, mais c'est une façon, par le roman, c'est une façon de se poser les questions différemment.
Puis une artiste suisse, ça vous donne quelque chose de plus, un petit coup de cœur privilégié ?
Bien sûr. Non, c'est chouette. Il y a des bons auteurs suisses et je pense que ça vaut la peine de les faire connaître plus loin.
Et dans le style de l'écriture, là, ça se ressent ou, enfin, je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais est-ce que ça...
Le style suisse.
Je pense qu'il y a un style suisse, ouais. Effectivement. Okay. Et puis, elle est dedans, ça c'est clair. Mais c'est une belle écriture et c'est une écriture simple. Enfin, pas simple, mais c'est agréable à lire. Mais sa réflexion est quand même exigeante. Mais ça reste accessible, quand même.
Ça, c'est le côté suisse, selon vous, ou c'est le côté propre à l'auteur ?
Je pense pas. Je pense que ça, c'est propre à l'auteur.
D'accord.
J'imagine.
Donc, deux livres dont on parlait ce soir, les deux coups de cœur, Ségolène.
Oui, donc en tout cas, merci beaucoup Mélissa d'être venue sur notre plateau nous présenter vos coups de cœur du moment. Donc pour rappel, il s'agit ce livre que je ne voulais pas écrire, d'Erwan Larère.
Oui, le livre que je ne souhaitais pas écrire, d'Erwan Larère, aux éditions Kidam.
Ainsi que le roman d'Hautsain, une toile large que le monde, qui se trouve aux éditions Zoé. Donc vous pouvez retrouver ces romans à la librairie indépendante et autogérée
je souligne, Basta, qui se trouve à la rue du Petit Rocher ou sur le campus de l'UNIL.
Et puis, on peut également les consulter sur votre site internet, Mélissa. On a des informations sur votre site pour les commander éventuellement.
Bien sûr.
Voilà. Oui. La librairie Basta a un site. On vous met tout ça en lien sur le nôtre, django.fm. Merci beaucoup, Mélissa.
Avec plaisir, merci à vous.
Une très bonne soirée. Merci pour ces coups de cœur. Puis on se réjouit d'avoir les prochains avant Noël, j'espère.
On espère aussi.
On espère aussi, voilà. Rendez-vous est pris et sera pris. Les détails, ce sera avec Ségolène d'ici quelques semaines. Les coups de cœur autonomes de la librairie Basta, un sujet à réécouter en tout temps sur notre site www.django.fm. On vous met tous les liens nécessaires pour retrouver les deux livres dont on vous a parlé ce soir. Merci beaucoup, Ségolène.
Merci Fabien, merci surtout Mélissa d'être venue.
Merci.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous avons parlé ce soir de Pierre Corajou et des chemins piétonniers à Lausanne. Nous avons parlé également de l'association Traits d'Asile et les suggestions de la librairie Basta avec ses coups de cœur. C'était à l'instant au programme de Cultiver Lausanne. Voilà, c'était le menu que nous vous proposions ce mardi 10 octobre sur Radio Django et Radio La Fabrique. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, après les cheminements piétonniers, ce soir, nous parlerons de chemins cyclables, de pistes cyclables, et puis nous ferons un tour du côté du festival Jazz 11+. Le programme est à suivre sur notre site et sur notre Facebook @RadioDjango. Rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau grand direct à écouter sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de produire cette émission ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est précisément 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.